Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.
C'est l'heure de la création radiophonique sur Canal B.
Bonjour et bienvenue dans Gymnastique sonore, une émission de l'association Bande Magnétique qui vise à développer vos biceps auriculaires grâce à des exercices hebdomadaires savamment élaborés par les auteurices. Aujourd'hui, on écoute « Exercice de funérailles anticipé » de Sébastien Dissener. Partie 1, si loin. La mort ne disparaît pas. Elle change de forme, se dissémine, se planque dans les interstices d'un monde qui refuse de la voir. Ici, on la noie sous les protocoles médicaux et on la neutralise à coups de sédatifs. Là, on l'upload sur des serveurs mémoriels. On voudrait qu'elle se fasse discrète, qu'elle n'entrave pas trop le flux des vivants, et pourtant, aucune de nous ne peut s'y dérober. Et si, dans nos sociétés occidentales, une autre manière de considérer la mort était en train de se jouer? Et si on arrêtait de vouloir que la fin de la vie et la mort ne viennent surtout pas perturber la place des vivants? Et si, au lieu d'exclure nos défunts et défuntes, on s'ouvrait à d'autres formes de coexistence avec elles et eux? Et si, au lieu de faire taire nos morts et mortes, nous apprenions à les écouter autrement? Un documentaire sonore en 2 épisodes, réalisé dans le cadre de La mort vivante de nosfutures.net, un projet du CVB.
Mon père m'a demandé de faire le tri dans les affaires de ma mère. Je suis tombé sur cette boîte de vieilles cassettes.
Je suis bien. Et je prends conscience du doux frémissement qui envahit toute la surface.
J'ai reconnu sa cassette de méditation qui me faisait bien rire avec mon cousin. Puis il y avait toutes ces émissions qu'elle enregistrait à la radio, comme cette émission sur le deuil.
On mettra vos coordonnées sur le Minitel, en tout cas si vous habitez Rosny-sous-Bois.
Excuse, mais je vous entends très très mal. Hein,
oui. Bon, racontez-nous ce que vous faites dans votre association lorsque une famille vient et dit voilà, j'ai perdu quelqu'un, aidez-moi. Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Donc, si vous voulez, ce qui se passe, il est évident qu'une fois que le décès survenu, on ne peut pas rompre des liens si forts qui se sont créés durant toutes les semaines dans lesquelles on a accompagné ces personnes.
Et puis enfin, la voix de ma mère, enregistrant sa propre mère.
Ça ne se tente pas par moi. Ça ne peut pas être arrivé. Je serai incapable, moi, de dire quand mes grands-parents sont décédés. Quel âge? Enfin, j'avais
ma mère avait 80 ans. Et mon père, 71.
J'ai rangé les cassettes. Et pourtant, c'est comme si quelque chose résonnait encore. Une voix qui ne voulait pas se taire. Une sensation fantôme qui revenait me hanter. Exercice de funérailles anticipées. Un documentaire de Sébastien Dissener. Première partie, si loin.
Alors,
Les morts ne parlent pas avec des mots. Leur langue est celle du souffle et des échos. Ils murmurent dans le vent, dans le cri des oiseaux, dans le silence des nuits et l'eau des ruisseaux.
C'est pas ça que je cherche. Anthropologie. Rituel funéraire. L'anthropologue québécoise, Luce Desauniers. Allez.
Le phénomène des fantômes rend bien compte de la présence d'entités qui auraient été laissées pour compte par les humains et qui manifesteraient leur présence de temps en temps pour se rappeler à eux, mais aussi pour exiger d'eux compensation ou réparation en regard de certains rituels qui auraient pu ne pas être accomplis.
Je me rends compte qu'en anthropologie, les fantômes sont tout à fait pris au sérieux. En gros, leur apparition est liée au rituel funéraire. Un mort revient quand il n'a pas été honoré convenablement en tant qu'ancêtre, quand les bons gestes n'ont pas été faits. Je crois pas aux fantômes. Ma mère n'y croyait pas non plus. À moins qu'on entende le terme fantôme comme dans l'expression « membre fantôme ». Vous savez, un membre amputé pour lequel on ressent encore des sensations. Peut-être que ça vaut aussi pour un membre de la famille. La personne est morte, mais les liens qui nous relient à elle, même arrachés, continuent à flotter, à tendre vers elle, sensibles. Et dans mon histoire aussi, à l'origine de cette sensation fantôme, il y a un rituel funéraire. On est le 4 décembre 2020. Je suis dans un magasin de bricolage, rayon loisirs créatifs. Papier mâché, macramé, pâte à sel, d'habitude je déteste ça. J'ai aucune patience et avec mes gros doigts, ça finit toujours en catastrophe. Mais là, je suis hyper motivé.
Une fois sec, le film de la résine est très dur, sèche en 8 heures.
Je suis à fond, yes, c'est ça qu'il me faut. Je reviens à la maison. Je fais mon petit bricolage sous ma lampe le soir. Je suis bien toutes les instructions. Ça marche. Je vais me coucher, satisfait.
Yes.
Le lendemain, je vais voir mon petit chef-d'œuvre. Et là, catastrophe.
Ah merde.
La résine n'était pas sèche.
Ah non.
C'était un petit médaillon. Et maintenant, la photo de ma maman sous la résine est pour ainsi dire voilée derrière un brouillard d'indifférence. Dans quelques heures, c'est les funérailles de ma maman. Et ça, ce petit objet bricolé, sans valeur marchande, un peu puéril, c'est ma contribution. Et pour moi, à ce moment-là, c'est la chose la plus importante du monde. Je suis littéralement effondré, je ne vais pas pouvoir affronter cette journée. Finalement, l'histoire se finit bien. Ma compagne a réussi à réparer le médaillon. La force me revient pour porter avec mon père cette journée. Pour les funérailles, on avait le choix entre
la lumière du Christ qui accueille celui qui vient de décéder.
Mais ma mère n'était pas croyante et
la diffusion de montages photos et vidéos sur grand écran sur la vie du défunt est aujourd'hui très souvent proposée.
Une cérémonie laïque organisée par une entreprise de pompes funèbres classique. Mais on avait été plutôt refroidis par celle auquel on avait assisté, qu'on trouvait vraiment très impersonnelle. Et en plus, calquée sur le modèle religieux, le sacré en moins. Alors on se demandait s'il n'y avait pas une troisième voie. Plus à notre image et surtout à celle de ma mère. L'officier des pompes funèbres, un peu dépité, nous a laissé à disposition le petit funérarium du cimetière, où on a pu organiser une cérémonie comme on le souhaitait. Alors avec mon père, on a bricolé un rituel funéraire. La cérémonie était simple, belle, pleine d'amour, à son image. Elle lui aurait plu, je crois, et nous, elle nous a apaisés. Donc, l'histoire devrait s'arrêter là. Sauf qu'en fait, c'est le début. C'est le moment où apparaît cette sensation fantôme. Ce poison de l'intranquillité qui me hante depuis et qui, je le sais, est lié à l'incertitude de ces gestes funéraires bricolés au-dessus du vide et qui laisse s'immiscer entre eux le spectre du doute. Est-ce que j'ai fait les bons gestes ? Et puis, ça, c'est mon père. Le son de mon père. C'est comme ça qu'il m'appelait gamin, quand j'étais perdu dans la foule, au milieu du brouhaha. Je distinguais son appel, très efficace. Maintenant, il le fait plus très bien, parce qu'il est plus tout jeune, 82 ans. Et ça, c'est moi qui essaye de le faire, mais c'est encore pire. Il le tenait de son père, mais visiblement, la transmission s'arrêtera là.
Es war einmal ein alter König, der hatte sieben Töchter.
Ah, et oui, mon père est allemand.
Die eine war schöner als die andere.
Pourquoi je parle de mon père maintenant ?
Aber die jüngste.
Parce que dans l'ordre naturel des choses,
das war wirklich die schönste.
Bientôt, ça sera à moi de m'occuper de ses funérailles. Et l'ombre de cette sensation fantôme s'étend un peu sur lui aussi. Maintenant que je sais l'importance du rituel funéraire, je veux plus être pris au dépourvu. Je veux plus bricoler. Je veux faire les choses bien. Je veux faire les bons gestes. Ceux qui me semblent faire sens pour moi, pour lui, pour nous. C'est pourquoi j'ai décidé de réaliser ce documentaire à la recherche des rituels de demain.
Si on est mort, on sait pas vraiment c'est quoi le temps. On sait pas le temps qui s'est écoulé vraiment. Comme le génie qui sort des sortes de lampes. C'est comme si tu faisais un sommeil éternuement. Quand tu te réveilles le lendemain de matin, tu te rends pas compte du temps que t'as dormi quoi. Des heures et des heures que t'as dormi. Alors qu'en réalité, notre cerveau, il était pas en action. Donc nous savons pas du tout ce qui se passe. Et je crois que c'est comme ça qu'on remarque la mort, même si on peut rien remarquer. C'est quand même une grande question, même les adultes, ils savent pas répondre.
Face à la mort, nous sommes démunis, comme des enfants, pris de vertige. Les rituels funéraires nous permettent de l'apprivoiser un peu. Je suis allé voir l'anthropologue québécoise Luce Desaunier, spécialiste de la ritualité funéraire. Je lui ai demandé si les rituels funéraires étaient aussi vieux que l'humanité.
La mort, c'est vraiment la rupture totale. Et ça, ça fait peur. Et ça faisait d'autant peur comment la vue de l'autre... qui était inanimé et qui, après peu de temps, se transformait par la thanatomorphose, cette vue-là attaquait directement le sentiment que l'être humain a d'être un individu. Et ce qui riposte à ce moment-là, c'est bien sûr une question qu'on se pose depuis toujours, mais comment se fait-il qu'on en finisse là? Tout ça pour ça. Et donc, ce non-sens-là a suscité justement le désir rituel, c'est-à-dire le désir de chercher à tout le moins un sens à travers ce non-sens-là. Et ce sens-là, il se trouve dans le rite qui est essentiellement une série d'actes symboliques qui permettent d'accueillir, de composer et de fabriquer une forme quelconque de signification, mais toujours les uns avec les autres. Et probablement que le premier geste rituel a été de mettre un genou par terre. C'est-à-dire de dire « Oh, voilà, il y a quelque chose qui se passe, je suis atterrée, mais il y a un seul genou à terre, donc je vais résister. »
Les premiers rituels funéraires dont on a retrouvé la trace, ça remonte à quand?
On est en train de rebrasser un peu les datations qui, jusqu'à tout récemment, étaient de l'ordre de moins 45 000 ans. En fait, les premiers signes étaient d'abord la position des cadavres. Ils étaient souvent en position fœtale. Ils reprenaient la posture de l'avant-existence, c'est-à-dire la vie pré, comme telle. D'ailleurs, en passant, c'est ce qui fait dire pratiquement toutes les sociétés avant la nôtre, à partir du 19e siècle, que le contraire de la mort, c'est pas la vie, le contraire de la mort, c'est la naissance. Alors que c'est pas tant le contraire que le complément, parce que dans ces conceptions-là, la vie, c'était le cycle naissance, mort, renaissance. C'était aussi lié à quelque chose de très empirique, qui était l'observation toute simple de la nature autour de nous. La nature se régénère à partir de la mort de certains de ses éléments. Sinon, la nature serait figée, elle serait morte, parce qu'elle serait cristallisée dans quelque chose qui est immuable. Et donc, la vie, c'est le mouvement entre la naissance et la mort, et ce que la mort permet comme renouvellement. Ça vaut pour nos cellules, ça vaut pour les sociétés, ça vaut pour les groupes humains. Bon, autrement dit, notre corps est fait pour mourir, mais notre esprit, il veut rien savoir de la mort, notre âme ne veut rien savoir de la mort.
Est-ce qu'on a une idée plus précise des premiers gestes qui ont été pratiqués?
Le premier geste, c'était l'inhumation en position fœtale, mais c'était aussi d'abord de protéger la dépouille. Ça, c'est fondamental, c'est-à-dire qu'on la laissait pas comme ça. On la protégeait avec des peaux, des racines, parce que ce qu'on redoutait le plus, c'était les bêtes fouisseuses et compagnie. En plus de la protéger, on lui faisait des offrandes qui étaient une forme de nourriture dans ce qu'on imaginait déjà comme étant un voyage ou comme un passage vers... On ne savait pas quoi à ce moment-là, c'était absolument pas construit, l'au-delà était extrêmement flou. Et donc, c'était une façon de dire à celui qui venait mourir, ben, on te protège et on te munit de quelques, à la fois provisions symboliques, mais des fois même de la nourriture pour ce qu'on figure être un voyage sans évidemment, qu'on même maintenant puisse le prouver comme tel. C'est le premier geste de sollicitude qui est un geste qui répond à l'effet d'atterrement et l'effet de désolation absolue de la mort. Et tout se résume à ce moment-là à dire, mais comment fait-on, nous, les humains, pour moins mourir lorsque la mort survient?
Je lui ai demandé aussi si l'être humain était le seul animal à avoir des rites funéraires.
Il y a une ritualité minimale, sans symbolisme, et qui est une ritualité qui est liée à l'attachement des êtres pour un des membres de leur collectivité. On le voit pour les corneilles, on le voit bien sûr, l'exemple qu'on donne toujours, c'est celui des éléphants, qui se mettent à tourner, à braire autour de la dépouille d'un des leurs, à revenir sur le lieu où il est mort. C'est pas une cérémonie, on a voulu beaucoup faire d'anthropomorphisme à propos des animaux, mais c'est une manière de manifester le fait qu'il y a une brisure dans leur vie collective et que ça les touche.
Bon, comment procéder pour mon enquête? Je vais m'y prendre méthodiquement. Voilà, on va commencer par le commencement. Comment c'était les rituels funéraires dans le temps?
Le monde antique va avoir ses morts à l'extérieur des villes, le long des vias qui vont mener dans l'Empire.
C'est Juliette Caz qui va m'aider à répondre à cette question. Elle est chercheuse indépendante en thanatologie.
Et donc, les morts ne vivent pas avec les vivants, ça c'est important. Il faut rappeler que la mort est une souillure aux yeux du monde antique. Et donc, il faut éloigner ces morts, mais en même temps, il faut pas trop les éloigner, parce que on a une question d'ancestralité, et donc on a aussi, et on le verra avec d'autres rites plus tard, qu'on a quand même quelque chose à poursuivre avec nos morts. Par conséquent, on place les défunts le long des grandes routes, ce qui permet, en entrant dans les villes et en les quittant, de passer quand même devant les morts.
Pour dresser le portrait robot de ces funérailles futures, je crois que j'aurais besoin d'abord de pouvoir créer des prototypes de rituels, de pouvoir les tester par la fiction avant de trouver le bon. À partir de ce que j'ai entendu, en voici déjà un premier. Protocole de rituel funéraire numéro 1. Forger un aimant contenant dans son alliage une partie infinitésimale des cendres de son défunt. Se rendre sur le parking d'une aire de repos d'autoroute. Apposer son aimant funéraire sur un poids lourd de son choix. Souhaiter un bon dernier voyage à son défunt. S'accouder au pont qui enjambe les autoroutes et guetter les véhicules du même transporteur. Saluer. À proximité d'une gare ou d'un port, remplacer le poids lourd par une locomotive ou un cargo. À proximité d'un observatoire ornithologique, remplacer l'aimant par une bague. À la belle saison, saluer le vol des oiseaux migrateurs.
Du coup, au Moyen-Âge, ce qui va se passer, c'est que la grosse transition va être que les morts vont retourner avec les vivants. Ça, c'est majeur. C'est majeur parce que en retournant avec les vivants, en fait, ils vont se rapprocher des espaces consacrés, et les espaces consacrés sont les églises. Et les églises, pour fonctionner, il faut qu'elles soient avec les gens qui y vont. Ou on va vouloir être au plus près des saints. C'est ce qu'on appelle l'inhumation ad sanctos, donc vraiment près des saints. Et donc, pour ce faire, on peut être inhumé sous le sol directement des églises et, dans d'autres cas, donc en terre consacrée, qui est le cimetière. Et puis, on va se rendre compte assez rapidement que le plus gros enjeu, en fait, de l'époque médiévale et par la suite jusqu'au XIXe siècle, ça va être le manque de place. Voilà, parce qu'on inhume des corps dans un espace réduit qui est l'espace consacré, et donc les corps vont commencer à s'entasser. Donc ça va être compliqué de loger tout le monde à cet endroit-là. Or, il faut que les corps soient entiers pour pouvoir un jour être là le jour de la résurrection. Donc il faut savoir que le cimetière médiéval, on en a de plusieurs sortes. On peut avoir un enclos paroissial, donc voilà, assez classique, mais en France, on en a, en tout cas, on a ce qu'on appelle des êtres, AITRES, c'est en fait une grande galerie qui va entourer l'espace où on inhume les morts. Souvent dans ces galeries-là, on pouvait avoir en hauteur justement des os qui avaient été sortis et qui ont été mis en ossuaire entre guillemets dans ces galeries-là, et donc ça offrait finalement au centre de la ville un espace abrité, parce que qui dit galerie dit espace ou marché, et qui dit espace abrité dit personnes qui viennent et qui y restent. Et en fait, ça va être un des gros problèmes des cimetières médiévaux, c'est qu'on n'est pas du tout sur une pratique comme on connaît nous du cimetière où on vient se recueillir. Là, on a des marchands, on a des gens qui viennent uriner dans l'espace, on a des prostituées. Et ça, on le sait parce que les archives des villes sont assez fournies là-dessus. On sait que très tôt, c'est un espace qui n'est pas du tout, en fait, c'est sacré, mais en même temps pas tant que ça. Donc il y a une relation très bizarre au cimetière médiéval.
Où est le déjà là ? Tout est mort, il a un an, 5 ans.
On peut la chercher.
Là, je suis avec mon fils, un de mes fils. C'est pas rare qu'on fasse un tour dans le petit cimetière du village où mon papa habite. C'est notre rituel à nous.
Ouais, j'aime bien ça.
C'est quoi ça? Tu peux me décrire?
Cette tombe, enfin, c'est juste, ils mettent une pierre, voilà.
Et quoi d'autre?
Ils plantent des choses, je pense. Ils font une sorte de petit jardin, Ils mettent des pierres aussi.
Ouais, c'est tout naturel, hein. Juste des pierres et des plantes qui poussent directement sur la tombe. Tiens, viens, regarde là, là où il y a les petits anges.
Ah, c'est elle. Elle a un an. Un an et combien de mois et tout, je peux me dire?
5 février 1974, 29 janvier 1977. Ça nous fait quoi, ça? Ça nous fait 2 ans. Enfin, presque 3 ans. 2 ans et...
6 mois.
23 jours.
24.
Peut-être 24, je sais pas.
Ok, donc maintenant j'ai une petite idée de comment ça se passait dans le temps, ici, mais ailleurs, comment ça se passe? Est-ce que, Juliette, tu pourrais me donner un exemple de rituel qui n'a rien à voir avec la façon dont ça se passe chez nous?
Au Tibet, on a justement cette pratique des inhumations célestes. Alors, il ne faut pas s'imaginer ça comme quelque chose qui arrive tout le temps. Hein. On a des personnes qui vont le pratiquer, d'autres non. Surtout qu'avec la Chine qui a imposé la crémation pendant pas mal de temps au Tibet, eh bien, on a eu des bouleversements au niveau des rites. Les inhumations célestes, on parle d'inhumation, mais en fait, on va enterrer personne puisque on va avoir un individu qui est en charge en fait de s'occuper des funérailles, qui va venir chercher le défunt. Donc le défunt va être recroquevillé, mis dans un drap, et donc là, ce qui va se passer, c'est que une fois arrivé au lieu d'inhumation, le défunt va être mis sur le ventre et il va être dépecé. La finalité, en fait, de cet acte qui peut sembler très violent pour beaucoup de gens, ça va être de créer une sorte de mixture à donner aux vautours. Et donc, les individus vont être réduits, entre guillemets, à l'état finalement de poudre, de morceaux, pour pouvoir nourrir ces vautours et finalement qu'il ne reste plus rien ou presque. Mais c'est quelque chose qui souvent est très perturbant visuellement et qui pour autant s'inscrit dans quelque chose qui là pour le coup est entièrement sacré. Donc moi je trouve que c'est le meilleur exemple, enfin un des meilleurs exemples pour expliquer en quoi la sacralité des uns n'est pas la sacralité des autres.
Et ce n'est pas cette bonne vieille Antigone qui dirait le contraire.
N'est-il pas vrai que Créon accorde l'honneur d'une tombe à l'un de nos deux frères et le refuse à l'autre?
Puisque, pour elle, le pire outrage fait à un défunt, en l'occurrence ici son frère, Polynice, qui avait trahi la cité...
Il dit qu'il a fait proclamer à l'intention des gens de la ville qu'il était interdit à quiconque de couvrir d'une tombe ou de pleurer le cadavre de Polynice, mort pitoyablement.
C'était de laisser son cadavre sans sépulture au pied de la muraille, à la merci des charognards.
Qu'il fallait le laisser sans le pleurer et sans tombe, savoureux trésor des oiseaux qu'il repère pour le plaisir d'un festin.
Laissons pour le moment à son destin Antigone et sa piété tragique.
Moi, je vais l'enterrer. Il me paraît beau de mourir en faisant cela. Mon crime sera la piété. Il me faut plaire plus longtemps aux gens d'en bas qu'à ceux d'ici.
Et tournons-nous vers celle de l'inhumation céleste pratiquée au Tibet. Est-ce que nous pouvons nous en inspirer pour inventer un rituel funéraire contemporain chez nous, en l'occurrence en Belgique? De quoi avons-nous besoin? D'un haut plateau de l'Himalaya?
Donc, pas de haut plateau ici, à Bruxelles, mais je suis en train de monter vers le plus haut point de la ville, au sommet de Bruxelles, altitude 100 mètres, au-dessus du niveau de la mer environ, sur le dénivelé là. Voilà.
De nobles vautours affamés.
Et pas de nobles vautours non plus. Ici, c'est le royaume des perruches. Donc bon, on va faire avec ça. Hein.
Et de découper le cadavre rituellement.
Bah oui, celui-là, je suis dans votre territoire, ça va? Vous m'accueillez? Ok, donc, je ne vais pas découper un cadavre humain, parce que je pense que on me laisserait pas faire très longtemps. Et puis, je suis pas sûr que ce soit du goût des perruches non plus. Donc, du coup, je suis venu avec une offrande, un sacrifice. C'est un kounyou, donc un petit pain en forme de bonhomme. Voilà, donc je découpe le bonhomme et je vais l'offrir aux oiseaux du ciel. Petit les perruches. Ah, tenez. Petit,
là.
Petit, oui, là. Venez. Ah non, pas toi le pigeon. Ah non, mais. Ah si. Ah mais non, mais pas ça. Bon.
Peut-être finalement que tout rituel n'est pas importable tel quel d'une culture à une autre.
Et encore, là, pour les vautours, bon, pour nous, c'est assez parlant parce que c'est un oiseau qui repart dans le ciel. Mais il faut savoir qu'au Tibet, au 19e siècle, on a des pratiques attestées de corps qui sont donnés à manger aux chiens ou qui sont jetés dans des rivières. Donc vraiment, là, pour le coup, en fait, ce qui est important de retenir, c'est qu'est-ce que contient finalement le corps pour les uns et pas pour les autres? Or, pour d'autres, c'est juste une enveloppe, en fait. Et donc, à ce moment-là, la sacralité du corps, elle change beaucoup en fonction de ce qu'on lui attribue aussi comme statut post-mortem.
Dans certaines sectes en Iran ou en Inde, on pense aux Parsis, on pense aux Guèdres, les fameux tours de silence, grosses tours en pierre, ce qu'on appelle les dharkmas. C'est des tours de pierre avec des espèces de galeries où on expose les morts aux vautours. Et une fois que les vautours ont fait le travail de dénuder les corps, on précipite les ossements dans le fond d'un puits. On met de la chaux qui accélère le processus, mais évidemment en les protégeant de la vue. Donc il y a comme un tabou, c'est-à-dire une protection qui est liée au fait qu'on tient compte des sensibilités qui sont bien sûr variables, mais bon, en faisant en sorte qu'on se retrouve avec des eaux secs, minéralisées, cette période-là. Dans toutes les sociétés, d'ailleurs, cette période-là, entre la première dégradation, le pourrissement et la minéralisation, est une période extrêmement dangereuse en tout, ça c'est un universel dans toutes les sociétés. Mais ce qui est assez phénoménal, c'est que le temps du deuil social, on s'entend, c'est-à-dire le deuil tel que, avec ses interdits, ses obligations, etc., dans la plupart des sociétés, donc qui fait pour éponger une partie du deuil intime. Donc, le deuil social se cale sur le temps présumé de la détérioration du corps jusqu'à sa minéralisation. La seconde ou les secondes funérailles arrivent au terme d'un certain laps de temps. C'est un cycle. En général, c'est au moins un cycle de saison. En fait, il s'agit de récupérer les ossements des individus pour les réenterrer dans un lieu collectif qui correspond à une société des morts.
Seconde funéraille. Je connaissais pas cette notion, que je trouve assez fascinante et qui est apparemment assez répandue dans le monde.
Pour nous, les funérailles, finalement, elles se font en un temps, on va dire, puisque le tout final, c'est l'inhumation ou la crémation. Avoir plusieurs funérailles, ça va être surtout, et c'est le plus important, pour les cultures qui le pratiquent en tout cas, un changement de statut du mort. L'idée, ça va être, voilà, on va s'occuper du mort, on va par exemple lui faire sa toilette, sa veillée, on va le crématiser, ou à l'inverse, par exemple, le laisser en plein air. C'est le cas de chez certains autochtones d'Amérique du Nord, où on va laisser le défunt sur une plateforme le temps que là, bah, les charognards fassent leur travail, ou juste la météo. Et donc, une fois qu'on n'a plus de chair, on va aller chercher la dépouille et on va uniquement garder les ossements et en faire autre chose. Ce laps de temps entre les premiers gestes qu'on va faire pour permettre de faire des seconds gestes ensuite, il y a une idée de changement de statut du mort qui va devenir autre chose, un ancêtre, une âme, une autre créature, entre guillemets, du monde de l'invisible. On peut avoir aussi des exemples un peu moins connus, par exemple au Vanuatu, donc sur les îles du Vanuatu, on va avoir, alors là c'est pareil, ça fait partie des doubles funérailles, on va avoir un individu qui décède, souvent un chef de tribu, qui va être laissé là aussi à la décomposition, et en fait ces restes vont être récupérés et on va créer avec ce qu'on appelle un rambaramp, qui est un mannequin funéraire, en fait. Ce mannequin funéraire va être fait de glaise, de bâton, et on va surtout retrouver le crâne surmodelé, donc pour faire la tête de ce fameux mannequin. Et ce fameux mannequin va être emmené à l'orée du village, à un endroit où, finalement, si le mort rôde toujours, ne pourra pas faire grand-chose aux vivants. Et on va attendre que ce mannequin se désagrège, en fait, au gré de la pluie. Donc là aussi, on attend bizarrement une seconde décomposition du défunt. Et les restes, bon, ils peuvent être enterrés, laissés là. Enfin voilà, il n'y a plus de sacralité, finalement, maintenant qu'on a fait les rites qu'on avait à faire avec.
Donc je vais peut-être... essayer de fabriquer l'équivalent d'un rambaramp.
Un rambaramp, oui.
Un rambaramp sonore, peut-être.
Peut-être.
Ça me parle, ce rambaramp, ce mannequin funéraire. Ça fait écho en moi au crash test demi, au mannequin funéraire de test dont je pourrais avoir besoin pour tester mes prototypes de rituels funéraires. Mais comment je m'y prendrais pour le construire ? Avec un fragment de ma mère.
Le Saint-Effort m'a dit que quand mes grands-parents sont décédés.
Un morceau de mon père et...
Es war einmal ein alter König.
Un bout de moi.
N'est-il pas vrai que Créon a l'un de nos deux frères ?
Et ça donnerait une sorte de rambaramp familial numérique.
Bonjour. Je suis le rambaramp numérique de la famille Dissonner, composé à partir des voix de ta mère, de ton père et de toi-même. Je suis un mannequin funéraire. Veux-tu que je modélise le rituel de la bureaucratie céleste de la Chine impériale, où le travail que l'on faisait dans l'administration de l'Empire pouvait nous réserver une place quasi divine dans le ciel, ou encore celui des hachoirs, pour qui le plus grand honneur qui soit réservé aux morts est d'être mangé rituellement par la belle famille. Et adapter ces rituels à ta famille. Ah, pourquoi m'as-tu créé ? Mais tu n'ignores pas que, comme tout bon rambaramp, je suis destiné à être abandonné à l'orée du village et à m'effacer un peu de moi.
Et puisqu'on en est à convoquer les nouvelles technologies, est-ce qu'il faudra nécessairement composer avec elles demain pour construire nos rituels funéraires ?
C'est la question qu'on se pose le plus. Qu'on se pose d'ailleurs par rapport à l'intelligence artificielle, au fait de redonner de la voix à certains défunts, le fait de pouvoir faire parler des photos. Ça pose des questions sur l'éthique. Est-ce qu'on peut faire parler un défunt et lui faire dire ce qu'on veut ? Moi, je sais que ces questions, elles se posent par exemple pour les gens qui n'ont pas pu voir leur défunt à cause d'un accident ou parce que le corps était trop abîmé et que personne n'a rien pu faire. À savoir, est-ce que cette technologie-là, elle pourrait pas aider aussi dans le travail de deuil, c'est-à-dire montrer peut-être... une dernière image du défunt. Bon, là, on est complètement dans quelque chose qui nous semble très futuriste, mais en fait, c'est vraiment là, quoi. On touche du doigt tout ça. Donc, au Japon, là où souvent on se dit « Ah, la technologie au Japon, elle est incroyable », bah, en fait, ils sont très traditionnels sur plein de choses, ce qui n'empêche qu'on a eu des tentatives quand même d'expression différente du deuil, et en tout cas de ce temps du deuil qui dure une quarantaine de jours au Japon, notamment avec le Digital Shaman Project, qui est donc un projet à moitié artistique et à moitié finalement réaliste dans le cadre funéraire, fait par Itsuko Ishihara, qui est donc est une spécialiste de ces divers domaines artistiques et de prédilection. Et donc elle a créé un robot de deuil en fait qui a pour but de prendre entre guillemets le visage d'un défunt. Donc on va recréer le visage d'un défunt et le robot va être entraîné en fait en prenant les données du défunt, donc par exemple dans les téléphones, dans l'ordinateur, etc., pour prendre un peu la façon de parler du défunt, ses expressions. Et donc ce robot va suivre l'endeuillé pendant la quarantaine de jours nécessaires, en tout cas dans le deuil traditionnel au Japon. Et à la fin des jours qui sont passés, en fait, le robot va définitivement dire au revoir à son proche. Donc en fait, c'est très bizarre parce qu'il va s'éteindre. Et donc la personne, elle sait très bien qu'elle a un compte à rebours avant que ce robot s'éteigne, ce robot représentant son défunt. Mais en tout cas, au Japon, ça reste minoritaire, mais ça existe aussi puisqu'on a des temples qui vont faire appel à des robots pour prendre en main certaines cérémonies, par exemple. Donc là, on est carrément sur quelque chose qu'on imagine mal chez nous, avoir un maître de cérémonie remplacé par un robot.
Imaginons qu'on puisse déléguer l'organisation des cérémonies funéraires à l'intelligence artificielle. Qu'est-ce que ça donnerait ?
Nous sommes ici réunis aujourd'hui autour du tumulus funéraire en compost de copeaux de bois recyclables de Kigal van der Velt, qui trop tôt nous a quittés.
Kigal van der Velt, mais c'est un personnage et une scène que j'ai déjà utilisé dans une fiction, ça. Enfin, dans un contexte d'intelligence artificielle, je suis pas sûr qu'on puisse faire la fine bouche concernant l'origine de nos sources. Donc, nous avons un petit groupe de personnes, triées sur le volet, réunies autour d'un haut-parleur connecté appelé Ivan. C'est lui l'officiant funéraire virtuel.
Ritual assistant.
Pardon, Ivan ?
On dit ritual assistant. C'est mon titre officiel.
Ivan, tu as raison, ça sonne beaucoup mieux en effet. Donc, comment ça marche ? C'est très simple, vous autorisez Ivan à avoir accès aux réseaux sociaux du défunt et hop, en 10 minutes, vous avez la cérémonie, le discours, la liste des invités, les faire-part.
Un gain de temps précieux pour les personnes endeuillées.
Bien sûr, Ivan. Donc, pour donner un peu de contexte, Kigal, 57 ans, célibataire, carrière scientifique, elle a travaillé pour un laboratoire qui œuvre à la désextinction du mammouth laineux. Ça, c'est pas de la science-fiction, ça existe vraiment. On t'écoute, Ivan.
Fort apprécié de ses collègues qui la surnommaient « Maman », Kigal van der Velt avait obtenu le titre de docteur en biologie avec les félicitations du jury pour une thèse portant sur, je cite, « l'évolution génétique virtuelle de Mammutus primigenius, le mammouth laineux, jusqu'à nos jours, dans la perspective uchronique de sa non-extinction liée à la surchasse pratiquée par Néandertal et Homo sapiens. »
La cérémonie n'a pas lieu dans un cimetière, mais à l'arrière d'un parking d'hypermarché, sur une plate-bande d'herbe pelée, sous un panneau publicitaire tournant. Pourquoi ce choix, Ivan ?
L'emplacement est idéalement situé par rapport à la moyenne des trajets des proches de la défunte. Il permet également de venir se recueillir après avoir fait ses courses. Et enfin, d'après mes données de statistiques archéologiques, il est probablement situé au-dessus d'un site sacré préhistorique datant de l'âge du fer.
Ok. On dit comme ça, ça paraît être le choix évident. Je te laisse continuer la cérémonie.
Le RDOD.
Le ?
Le rituel de deuil optimisé pour le défunt.
Ok. Très bien, Ivan.
Nous vous invitons maintenant à rendre un dernier hommage à Kigal van der Velt. Dans l'esprit du sujet de recherche qui l'a animé toute sa vie, en soufflant dans cette corne de brume en ivoire de mammouth synthétique, afin de prévenir son âme contre la rencontre des mauvais esprits lors de son dernier voyage, conformément au rite funéraire néandertalien et à ses convictions écologiques.
Bien vu ça, l'idée de revisiter un rite funéraire néandertalien. Et Ivan est toujours prêt à vous aider. Par exemple, si vous ne trouvez rien de plus original à dire aux endeuillés qu'un très convenu mes condoléances.
Mes condoléances.
Mes condoléances.
Mes condoléances.
Vous pouvez dire Empiftil Totil Yuka. Ça veut dire que son âme voyage en paix en néandertalien.
Empiftil Totil Yuka.
Empiftil Totil Yuka.
Empiftil Totil Yuka.
Empiftiltotilyuka.
Et vous, Luce Desauniers, vous en pensez quoi des robots du deuil et autres death tech, ces nouvelles technologies au service du funéraire?
Ce que ça fait, c'est que ça retient la personne dans une image d'elle-même qui était non pas son image comme morte. Elle n'est pas morte, elle est revécue comme ex-vivante à répétition, en réitération. Puis cette personne-là, en plus, elle n'évolue pas parce qu'elle a beau, t'as beau faire des permutations différentes, sa présence, entre autres, se cristallise sous certains traits. Donc, elle n'évolue pas, toi, tu n'évolues pas, puis ça peut devenir extrêmement torsionnaire, à la limite, j'exagère peut-être un peu, mais bon. Ça dit qu'on fait son deuil en retenant l'autre chez soi ou dans son état. Et ça a commencé par la rétention des cendres à domicile. Donc, le mort m'appartient et moi, j'en fais ce que je veux. Donc, pour le dire vite, c'est un anti-deuil. Pour moi, c'est terrorisant parce que ça veut dire qu'un mort peut venir te chatouiller. Il y a bien assez des rêves qui ont été interprétés comme présence des morts dans toutes les sociétés. Il y en a des centaines d'associations qu'on fait. Et c'est la beauté du deuil parce que ça nous prend par surprise et donc c'est pas quelque chose qui est planifié et convenu. Mais tout ce phénomène-là s'inscrit dans un phénomène qui, à mon sens, est la grande dominante dont on n'a pas parlé, qui est actuelle, c'est le deuil contrôlé. Le deuil et la mort, c'est-à-dire que tout ce qui est autour de la mort est contrôlé. L'avant-mort, le moment de la mort, les funérailles et le deuil. Donc, ce contrôle-là est pour moi le grand, grand phénomène actuel anthropologique. C'est vraiment la rupture anthropologique qui est en train de se vivre, c'est-à-dire le fantasme de contrôle qui est un fantasme. Il y a cette nouvelle idéologie qui prétend contrôler la mort et donc, ce faisant, dénature ce qu'est la mort, parce que la mort, c'est à la fois l'incontrôlable, le mystère, relativement imprévisible. Et pour moi, ce contrôle-là, c'est une façon, non pas de maîtriser symboliquement comme on l'a toujours fait, mais c'est une façon de manifester la terrible peur qu'elle nous fait, même plus que la peur, l'angoisse et la terreur. Mais je pense qu'il y a d'énormes problèmes que nous risquons d'avoir au plan de la santé mentale, de la santé des populations, puis évidemment, au premier lieu, au plan des vécus de deuil.
Protocole de rituel funéraire numéro 2. Faire cloner numériquement son défunt sur un ordinateur dédié, si possible sur son vieil ordinateur. Placer l'ordinateur et son clone dans une alvéole numérique destinée à cet effet, au sein d'une ruche funéraire connectée. Il est important que le défunt puisse continuer à évoluer et à mûrir au contact de ses semblables, s'il le souhaite. Après un an et un jour, déclarez la cérémonie de seconde funéraille numérique ouverte. Apportez l'ordinateur et son défunt chez un médium. Même avec le numérique, il est important de conserver un médiateur humain entre le défunt et les proches. apporter une petite offrande au médium. Son travail n'est pas rémunéré. Une tarte aux pommes maison, par exemple, sera appréciée. Poser une éventuelle dernière question au défunt. Le médium, muni d'un casque à micro, traduira la dernière question en langage des morts et interprétera sa réponse à l'adresse des proches. Adresser au défunt un dernier adieu en plaçant le vieil ordinateur dans un caveau de recyclage doux où les données numériques du clone seront progressivement effacées et les composants de l'ordinateur organiquement recyclés.
Dans les terres froides et fils tissés où l'âme en code fut laissée, les morts numériques s'éveillent, tissant leur rite en doux soleil. Un chant de beats, un vent de flux, des ondes douces, des chuchotis nus. Les morts de verre et de lumière veillent encore, sans cimetière.
Allô, Sybille ?
Hey, salut. Salut, Seb.
Ça va ?
Ouais, ça va bien. Et toi ?
Ouais, écoute, ça va. Ben, en ce moment, je t'en avais un peu parlé, je crois, mais je suis en train de me poser beaucoup de questions, tu sais, sur les rituels funéraires et tout, en ce qui concerne mon papa. Pour me préparer, en fait, du coup, je suis allé voir une anthropologue, tu vois, pour lui poser des questions sur, par exemple, comment
c'est. Allez, Sébastien, mais non.
Quoi, mais c'est intéressant, quoi.
C'est à ton père que tu dois en parler. C'est à ton père que tu dois en parler, c'est lui que ça concerne.
Ouais, t'as raison, c'est vrai. Mais c'est pas facile quand même de, tu vois, de dire allô papa, comment tu aimerais tu vois, être enterré et tout.
Oui, c'est clair.
Ouais, non mais t'as complètement raison.
Il est peut-être temps que je passe de la théorie à la pratique et que je prenne le taureau par les cornes. Demander sans détour à mon père ce qu'il veut pour ses funérailles.
Gymnastique sonore, c'est terminé pour aujourd'hui. Vous avez écouté Exercice de funérailles anticipées de Sébastien Dissonner, la première partie, Si loin. Ce documentaire sonore en deux épisodes est réalisé dans le cadre de La mort vivante de nosfutures.net, un projet du CVB, production ACSR. Pour écouter la deuxième partie, rendez-vous la semaine prochaine. Et pour retrouver les archives de Gymnastique sonore, rendez-vous sur canalb.fr.
Gymnastique sonore.
Une émission de développement musculaire
intra-auriculaire.